Vous écoutez On lit pour vous.
Les libraires craquent, littérature québécoise, 17 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires. 1. Le prince africain, le traducteur et le nazi, par Didier Leclerc. Le prince Antonio du royaume de Congo est l'organisateur d'un fructueux trafic de diamants. Le major Baumeister, un tortionnaire nazi, va passer la France occupée au peigne fin afin de mettre la main sur le criminel. Entre les deux se trouve un traducteur, au nom de Jean de Dieu, un ami proche du prince. Au fur et à mesure de leur partie d'échecs qui se déroule entre Lisbonne et Paris, le conflit deviendra de plus en plus personnel pour les deux principaux personnages. L'auteur réussit à hameçonner le lecteur avec un brin d'humour, d'horreur et de sensualité. Le point fort de l'œuvre est la finesse avec laquelle elle brosse le portrait de la cruauté exercée sur les minorités en Europe et qui semble banale lors de cette période déjà difficile. 2. Le Miraculé par William S. Messier. Ce livre est tout destiné pour les lecteurs et lectrices qui aiment l'écriture introvertie, empreinte de sensibilité et proche de la réminiscence. En plus de retrouver le sens de l'humour si délectable de William S. Messier et sa capacité à rendre épique le moindre détail de la vie ordinaire, le lecteur ou la lectrice pourra y voir un dévoilement personnel comme l'auteur ne l'a jamais fait dans sa fiction. Le Miraculé est une véritable lettre d'amour à ses proches, ainsi qu'à tous ceux et celles qui l'ont accompagné dans plusieurs situations délicates, qui ont mis en péril sa vie, un chien, un accident de jeunesse et même son propre système digestif. Espérons qu'il continuera de garder encore longtemps son statut de miraculé, malgré lui, pour nous offrir d'autres excellents livres. 3. La soif que j'ai, par Marc-André Dufour-Labbé. La vie de boucher part à volo. Un maelstrom de colère et de tristesse l'amène la plupart du temps à lever le coude. Entre la vente d'une auto trop chère et le changement de couche de sa petite Flavie, le protagoniste se noie à petites gouttes. Un jour, son destin l'attend avec une brique et un fanal, et tout bascule. Quand le retour en arrière est impossible, doit-on fuir vers l'avant? Mais à quel prix? Dans son roman « La soif que j'ai », Marc-André Dufour-Labbé livre une histoire poignante et dépeint des personnages d'une profonde humanité auxquels on s'attache malgré leur quotidien chaotique. Empathie, cynisme et révolte sont réunis pour créer une œuvre qui bouscule, qui frappe fort. 4. Moi, Jessica M., 37 ans, maman, malheureusement, par Janice Loca. Dans ce roman, on plonge dans l'existence de Jessica, dans ce quotidien qui la rend prisonnière et dans ce rôle de mère qui l'étouffe. Pas de grand drame à l'horizon, outre le poids du quotidien qui l'écrase et au travers duquel elle tente de se définir autrement que par ses responsabilités parentales. Mais si, finalement, ce n'était pas ça le problème, et si ce n'était pas les enfants qui étaient à l'origine de son malheur, Jessica aura besoin de toucher le fond afin d'être en mesure de se sortir la tête de l'eau. La lecture de son histoire nous permet de réfléchir, même si on ne vit pas les mêmes tempêtes qu'elle, et d'en venir à certaines conclusions par rapport à la maternité et à ce qu'on attend des femmes, en particulier celles avec progéniture, dans notre société. 5. La véritable force de la nature, par Maude Michaud. J'attendais ce plus récent roman de Maude Michaud avec tellement d'impatience parce que j'avais adoré les autres. Je n'ai été en aucun point déçue par La véritable force de la nature, son petit dernier. C'est un récit coup de poing, raconté avec une plume magnifique. Les sujets abordés sont durs, puisque les personnages féminins qu'on y décrit incarnent à peu près tout ce que les femmes peuvent endurer de pire, mais ce sont des thèmes dont il faut parler et que l'on doit regarder en face. Comme dans tous ses autres livres, l'autrice parvient, avec son écriture, à nous faire vivre toutes sortes d'émotions fortes. Je vous assure qu'une fois que vous vous plongerez dans ce livre, vous aurez de la difficulté à le poser. 6. Du bruit dans le cosmos, par Virginie Fortin. Non seulement Virginie Fortin est drôle, mais en plus, elle allie à l'humour une bonne dose d'intelligence, de féminisme et de réflexion qui nous amène ailleurs. Dans cette retranscription de son premier spectacle solo, elle réussit à nous faire rire, parfois jaune, je dois avouer, de notre quotidien et de la société dans laquelle nous évoluons. Le petit ton grinçant et pince sans rire de l'humoriste est détectable même à la lecture. Les différents thèmes abordés sont d'actualité et, bien que l'artiste nous fasse rigoler d'à peu près tout, on entend très bien les critiques sociales qui se glissent entre les lignes. À mon avis, le seul défaut du texte est sa longueur, parce qu'on prend tellement de plaisir à le lire qu'on en voudrait beaucoup plus. 7. Elle, par Pierre Courville. C'est sous forme de court chapitre que l'autrice Pierre Courville s'interroge sur les différents aspects insidieux que peuvent prendre les micro-agressions quotidiennes subies par les femmes. À la manière d'une galerie de portraits de personnages pris à différents âges et stades de leur vie, les histoires relatées s'imbriquent autour d'une partie corporelle ainsi mise en exergue. Le corps féminin y apparaît alors quasi anonyme sous le regard de l'autre. La banalité des lieux des assauts tend à révéler, sous la plume de Courville, l'opposé de l'insignifiance des situations vécues. Un roman d'une écriture douce amère, contenant des envolées d'une grande intensité, ce qui décuple notre plaisir de lecture. 8. Jouissive, par Nathalie-Anne Roy. Jouons, jouissons, réjouissons-nous. On nous invite dans les envies intimes et les aventures d'une femme libérée de sa colère et de sa culotte. On s'amuse et on évolue en miroir de son plaisir, le tout ponctué par les illustrations bonbons de l'autrice. La sexualité est un terrain de jeu et on y découvre ensemble soumission consentie, orgasme dérobé en public, plan à quatre pattes, massage avec finition. On nous crie de nous réapproprier notre désir et de nous sentir légitimes de concrétiser ou non nos fantasmes. Finalement, Nathalie-Anne Roy offre encore un acte militant, cette fois-ci incarné dans un vécu festif. Je jouis, ne vous en déplaise. Vous écoutez Les libraires craquent, littérature québécoise, 17 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires. 9. Roman sans rien, par Antoine Charbonneau de Mers. Antoine Charbonneau de Mers est au sommet de son art avec ce roman sans rien qui renferme pourtant de bien belles choses, amenant à réfléchir sur l'authenticité de l'écriture et des raisons, aussi peu respectables puissent-elles être, qui l'alimentent. S'ouvrant d'abord sur une portion autobiographique autour d'un périple européen où retenue et minimalisme sont les mots d'ordre, l'œuvre se poursuit avec une seconde partie, l'antipode de la première, autant que sa continuité, plutôt éclatée et portée par une fresque de personnages marquants. Ce tout, ce roman sans rien, ne propose pas de réponse toute faite et se démarque par la maîtrise de ses couches de sens, de cette dualité narrative et des pistes d'interprétation qu'il suggère. 10. Congé par Cassie Bérard. Clémence est détective et présentement en congé. Réfugiée à Mystique, dans la maison de son défunt père, elle tombe sur le manuscrit de son amant, disparu depuis peu. Celui-ci raconte l'histoire d'un fait divers s'étant passé à Mystique au début du XXe siècle. Plus précisément, le récit d'une femme dont on a perdu la trace après une fête de village. Plus la recherche de l'enquêtrice pour retrouver son amant avance, plus on se demande « Mais qui nous raconte cette histoire ?» Suspense, récit historique, complexité narrative. Ce texte est un bijou littéraire, mon Cassie Bérard préféré à ce jour. Un mélange entre 12 arpents de Marie-Hélène Sarrazin, À la maison de Myriam Vincent et Un grondement féroce de Léa Artemise. 11. Luxé par Laurence Provencher. Ne s'appelle pas Cléopâtre n'importe qui. Une femme puissante et élégante à l'intelligence féroce, voilà ce à quoi la mère de Cléopâtre aspire pour sa fille. C'est un bien grand fardeau à porter lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur de son prénom royal. Sa mère a beau lui montrer tous ses trophées, Cléopâtre a l'impression que quelqu'un d'autre les a remportés à sa place. Ses examens au collège sont de plus en plus exigeants. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour entretenir l'illusion de la performance et ne pas décevoir les espoirs maternels? Une histoire sur les ramifications du mensonge et de la violence, souvent subtile, des relations mère-fille. Les héroïnes de Luxé sont attachantes et uniques. Elles nous charment tout autant que l'écriture maîtrisée et fluide de l'autrice. Un premier roman fort réussi. 12. Avant de brûler, par Virginie de Champlain. Avec ce deuxième roman, l'autrice confirme le souffle poétique et vivant de sa plume. Dans un monde post-apocalyptique, ravagé par les grands feux et les grandes marées, deux femmes s'apprivoisent tranquillement, pansent leurs blessures. Elles trouvent leur marque dans un territoire qui respire, observe, éveille. Une forêt aussi résiliente et indomptable que celle qui l'habite. L'autrice compose une ode à la nature et à la femme, l'une faisant sans cesse écho à la puissance, à la délicatesse et à la magnificence de l'autre. Mais c'est l'été, et je me rengorge et me dégorge, rouge et vive, et j'ai l'impression de tout réapprendre, de tout regarder avec des yeux plus clairs, plus présents. Je me lève en rugissant et la beauté est de plus en plus évidente. 13. Ce que ramènent les vagues de Sean Martin. Premier roman d'une autrice prometteuse. Anna est une jeune infirmière brillante et magnifique, mais totalement brisée par un événement survenu 5 ans plus tôt et dont elle ne se souvient plus du tout. Olivier est un chirurgien de renom de quelques années son aîné et semble d'abord être un salopard de la pire espèce, mais seulement avec Anna. Pour quelle raison l'a-t-il détesté dès son embauche dans cet hôpital? Pourquoi l'obsède-t-elle à ce point? Et pourquoi cette haine se transforme-t-elle maintenant en amour? Entre aversion et passion amoureuse, il n'y a qu'un pas. Voici une romance truffée de scènes charnelles habilement écrites qui vous fera vivre une kyrielle d'émotions. 14. Nommé le vivant de Mélilo de Repentigny. Mélilo nous présente son tout premier livre et c'est un coup de cœur instantané. Yel aborde la santé mentale sous un angle de douleur, de douceur, de mélancolie des beaux jours, mais aussi d'un espoir de jours meilleurs. Myrick, le personnage principal du roman, nous parle de ses passages obligés à l'hôpital, de son attachement à la flore et de la beauté de celle-ci, des gens qui, elle, rencontre tout au long de ses visites. Nommé le vivant décrit les étapes difficiles du parcours vers la guérison, mais aussi ses aspects plus doux. Il évoque les bienfaits d'aller chercher de l'aide, et l'importance de prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie et la nature qui nous entoure. 15. La terre maternelle par Anne-Marie Turcotte. Mariant l'autofiction, le roman historique et la légende québécoise, le roman d'Anne-Marie Turcotte offre une lecture remplie de belles surprises. Nous y suivons Anne, de ses derniers moments au secondaire jusqu'à la fin de ses études universitaires. Celle-ci, très attachée à sa terre maternelle, revisite avec son père les lieux chers à son cœur et chacun de ses rendez-vous est un prétexte pour nous faire découvrir le patrimoine et les secrets de sa région adorée. L'oralité de la parlure québécoise est très présente dans certains passages, mais le texte se transforme lorsqu'Anne nous ramène au temps présent, alors que la langue devient presque poésie. 16. Ma laideur n'influence personne par Ariane Michaud. Le corps, on le triture, on le scrute sous tous les angles, on le compare. Certaines parties de l'enveloppe charnelle peuvent amener leur lot de frustration, de déception, surtout au moment de la puberté. Se replongeant dans ses souvenirs d'adolescente, Ariane Michaud propose un florilège d'anecdotes empreintes d'humour autour de ses mal-aimés corporels. L'autrice se dévoile sans filtre dans Ma laideur n'influence personne, avec une généreuse dose d'autodérision et une rafraîchissante liberté. En résulte un joyeux réquisitoire contre les dictats de la beauté qui se trouve aujourd'hui exacerbé par l'omniprésence des réseaux sociaux. À lire d'une traite pour évacuer ses complexes et célébrer son unicité. 17. L'été des papillons par Geneviève Lagacé. Dans L'été des papillons, Geneviève Lagacé nous invite à plonger dans la vie d'Ophélia, 19 ans, qui décide de renoncer aux relations amoureuses. Jusqu'au jour où elle rencontre Médéric, qui bousculera sa décision de ne plus se plonger tête première dans les eaux troubles de l'amour. Bien plus qu'une romance, L'été des papillons met de l'avant l'importance de l'amitié et de la famille, malgré les embûches et les déceptions du passage à la vie adulte. Captivant de la première à la dernière phrase, ce roman est impossible à déposer et dépeint plusieurs moments auxquels il est facile de s'identifier. Geneviève Lagacé propose un excellent premier livre qui nous fait découvrir la vie de jeune adulte avec ses hauts et ses bas. C'était Les libraires craquent, littérature québécoise, 17 suggestions des libraires indépendants, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires.
L'inoubliable année de Barbada, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 juillet 2023 dans le magazine Fugue. Son émission musicale Barbada a fait un malheur sur Tout.tv. Elle a participé à la deuxième saison de Call Me Mother, en plus d'animer l'émission Sue Fierce sur Out TV. Des manifestations ont été organisées pour dénoncer les heures du conte qu'elle présentait avec bienveillance et flamboyance. Les réseaux sociaux se sont enflammés. D'innombrables chroniques ont été écrites pour générer des clics. Elle a été invitée à Tout le monde en parle. Malgré cette année folle, la drag queen Barbada regorge d'énergie et de projets. À quel point l'adversité de la dernière année t'a-t-elle épuisé? Barbada. Ça ne m'a pas grugé. J'ai été très chanceuse en termes de timing, car si cette même tempête était arrivée en 2022 alors que je n'avais pas d'agente, on pouvait trouver mon numéro et mon courriel sur mon site web. J'ai énormément bénéficié du premier filtre qu'elle effectuait. Elle est passée par des montagnes russes d'émotions pour nous protéger, moi et les dragues de l'agence qui subissent les contre-coups de ce qui se passe. Le négatif ne l'a donc pas emporté dans tes souvenirs? Barbada. Je me souviens surtout de la réaction positive de nos élus et de la motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne au Québec, que les gens ont le droit de s'exprimer, mais pas à travers la haine et la désinformation. Ça m'a beaucoup rassuré. Je me sentais soutenu et fier d'être au Québec. L'autre moment qui m'a enlevé un poids des épaules, c'est mon passage à Tout le monde en parle la semaine suivante. Après l'émission, ma mère m'a dit « Si les gens n'ont pas compris après ça, ils ne comprendront jamais. » Elle a tellement raison. Je savais déjà que je ne plairais pas à tout le monde, mais à partir de là, j'ai décidé d'avancer. Je vais rester ouverte aux personnes qui veulent comprendre, mais ce n'est pas vrai que je vais perdre du temps avec des gens qui pensent qu'on est des pédophiles. Qu'est-ce que ça te fait de voir la drague interdite dans certains endroits aux États-Unis? Barbada, on n'est pas immunisé au Canada, évidemment. Mais ça me rassure de voir qu'ici, on a dit non à cette haine. C'est de la haine déguisée, mais c'est une forme de transphobie et d'homophobie sous le couvert de vouloir protéger certaines personnes, alors que personne n'a besoin d'être protégé de nous. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout va de plus en plus vite en société. C'est le pire contexte pour que les préjugés soient véhiculés. Pour contrer un préjugé, il faut que tu prennes le temps d'écouter et de comprendre. Actuellement, on ne fait plus ça. C'est excessivement dangereux. Tu vas présenter le party de la fierté. En quoi cela va-t-il consister? Barbada. On va ajouter de la couleur, de la paillette et du plaisir dans la place. Il y aura deux spectacles, un pour les personnes qui viennent plus tôt en soirée et un autre plus tard. On va être en mode party et performance. C'est une grosse affaire. On est presque une vingtaine d'artistes. Tu vas aussi participer à des paillettes et des livres dans le cadre de Fierté littéraire. Qu'est-ce que c'est? Barbada. C'est une discussion avec des auteurs, autrices et auteurices queers que je vais animer. On fait une table ronde pour présenter des ouvrages littéraires. Je vais faire ma Marie-Louise Arsenault. Je l'avais fait l'an dernier et ça avait super bien fonctionné. Ça fait des années que je collabore avec Fierté littéraire. C'est toujours très le fun. On a de belles réflexions. Ça montre que le drag, c'est multidimensionnel. Tu vas aussi être DJ avant le show E-Mix sur l'esplanade du Parc olympique. Quel genre de DJ es-tu? Barbada. Moi, si tu me dis tu vas être DJ dans un coin et personne ne va te voir, je refuse. Je préfère donner un show. Je veux pouvoir partir une toune, aller danser, crier ou surfer s'il le faut. C'est mon moment pour connecter avec le monde. Je ne suis pas dans la grosse musique électro. Je veux que les gens, à toutes les chansons, disent « c'est ma toune » ou redécouvrent un vieux succès. Je mets de l'avant la culture pop, anglophone et francophone. Je peux jouer la dernière toune de Beyoncé et enchaîner avec « Si exceptionnel » d'André Waters. On t'a vu beaucoup à la télé cette année, et pas seulement en lien avec la controverse entourant les heures du conte. Est-ce que l'animation télé te sort encore de ta zone de confort ou tu te sens de plus en plus solide? Barbada, les projets télé me sortent beaucoup moins qu'avant de ma zone de confort. Le fait d'avoir dit oui à toutes ces émissions, même si c'est très demandant et que ce n'est pas toujours ultra payant, ça m'a énormément appris. J'ai aussi beaucoup progressé en participant à des projets qui n'aboutissent pas toujours en ondes, comme de gros projets des étudiants de l'INIS qui ont tourné un talk show en me demandant d'animer. Grâce à cette expérience, j'ai pu pratiquer la gestion des délais, les retours de pause et les interactions avec toute l'équipe. Ça m'aide énormément. En bout de ligne, l'élément principal que j'ai appris en faisant de la télé, c'est la patience. Tout est extrêmement long, contrairement au spectacle sur scène où c'est un feu roulant. Info barbada.ca fiertémontréal.com. C'était l'inoubliable année de Barbada, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 juillet 2023 dans le magazine Fugue.